Bonjour à tous. Alors que la réforme de l'assurance chômage doit être présentée mardi prochain, nous allons vous révéler les chiffres sur lesquels Pôle emploi ne communique pas. Officiellement, un conseiller s'occupe tout au plus de 350 demandeurs d'emploi, mais dans les faits, ce nombre peut doubler, voire tripler. C'est ce que vous allez nous expliquer, Cécile Hautefeuille. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons François Tomazo. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous, vous co-signez une BD consacrée à un tabou, le dopage dans la musique classique. Les solistes notamment subissent un stress très important et eux aussi auraient recours donc à des produits interdits.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Le métier de conseiller à l'emploi, c'est favoriser par nos actions le retour à l'emploi des demandeurs. D'abord, donc, les accueillir et les informer. Ça va passer par exemple la réponse au mail ou l'accueil dans l'agence.
Voilà, ça c'est un extrait d'une pub produite par Pôle emploi et diffusée sur YouTube. Alors officiellement, tout est formidable. Les conseillers sont entièrement disponibles pour accompagner des chômeurs avec le plus d'efficacité possible. Sauf que si on y regarde de plus près, Cécile Hautefeuille, là on découvre que ces conseillers, ils croulent sous les dossiers et surtout que le nombre des dossiers qu'ils ont à traiter est bien plus important que celui qui est annoncé.
Oui, alors il faut d'abord expliquer que dans le jargon de Pôle emploi, le volume de demandeurs d'emploi suivi par un conseiller, on appelle ça un portefeuille. À la création de Pôle emploi, il y a 10 ans, l'objectif c'était qu'un agent suive environ 60 demandeurs d'emploi. Un objectif qui semblait utopique et d'ailleurs, il n'a jamais été atteint.
Et donc aujourd'hui, le nombre de dossiers traités par un agent, c'est quoi ?
Eh bien, sur le site institutionnel de Pôle emploi, le chiffre le plus élevé qui est affiché, donc le chiffre officiel, c'est 350 demandeurs par conseiller.
Oui, ce qui n'est pas rien.
Effectivement, c'est beaucoup, mais c'est encore en fait très loin de la réalité. Parce qu'il y a des conseillers qui gèrent aujourd'hui 700 voire 1000 personnes. Et j'ai pu le vérifier en ayant accès à des chiffres dans différentes agences à travers toute la France.
1000 personnes pour un seul conseiller. Et on explique ça comment ?
Eh bien par le fait qu'une partie des demandeurs d'emploi officiellement n'existe pas dans ces portefeuilles, tout simplement parce qu'on les a rangés ailleurs. Michel Abervé est ancien professeur d'économie sociale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de Pôle emploi. Il nous explique qu'on ne comptabilise en fait qu'une partie des demandeurs d'emploi.
Ils ne sont comptés dans la taille des portefeuilles que les demandeurs d'emploi de catégorie A et B. Ne sont pas comptés les demandeurs d'emploi en catégorie C, ceux qui travaillent à temps partiel et qui est la catégorie qui augmente le plus vite. Ne sont pas non plus pris en compte les catégories D et E, par exemple, ceux qui sont en formation ou en contrat aidé, qui nécessite de la part du conseiller de Pôle emploi un suivi pour préparer la sortie et la suite. Donc on voit bien que ceux qui sont indiqués dans les statistiques sont sous-estimés, avec des, pour ma part, une estimation, mais que je n'ai pas les moyens de vérifier complètement, qui montre qu'il y aurait sans doute autour de 50% en plus dans les tailles des portefeuilles réels par rapport à ceux qui sont publiés, c'est-à-dire les portefeuilles actifs.
Ouais, 50% de personnes dont il faut quand même bien s'occuper, et parfois même plus d'ailleurs, donc hein, si je vous entends bien, Cécile. Et les salariés, ils la confirment, cette différence entre le portefeuille annoncé et le portefeuille réel ?
Oui, un agent de Pôle emploi a accepté de me parler sous le sceau de l'anonymat, nous l'appellerons Dominique, et à sa demande, nous avons modifié sa voix. Dominique, donc, confirme que si on compte toutes les catégories d'inscrits, ça fait beaucoup de monde à gérer pour un seul conseiller.
Il m'est déjà arrivé d'atteindre entre 230 et 250 demandeurs rattachés, alors qu'en réalité, mon portefeuille complet comprenait plus de 700 demandeurs d'emploi. Moi, j'ai déjà vu des chiffres comme ça. J'ai déjà vu des portefeuilles qui ont dépassé 1000 demandeurs, oui. Ils apparaissent peut-être pas dans les chiffres, mais ils existent bien.
Ils existent bien, ouais. Et quelles conséquences concrètes est-ce que ça a ?
Eh bien, des demandeurs d'emploi voient leur rendez-vous annulé au dernier moment uniquement parce qu'ils ont basculé hors portefeuille après avoir déclaré une reprise d'activité, par exemple une mission d'intérim. Et puis, certains n'arrivent même pas à joindre leur conseiller. C'est ce qui est arrivé à Laure, elle est inscrite à Pôle emploi. Récemment, elle a essayé de contacter son conseiller, mais elle ne savait même pas à quoi il ressemblait.
J'ai son nom, son prénom, son adresse mail, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai jamais rencontré. Je demandais un rendez-vous pour faire le point sur mon dossier et j'ai jamais eu de réponse.
Combien de fois vous l'avez sollicité ?
Deux fois.
En combien de temps ?
Ça devait être sur une période de 2 mois, quelque chose comme ça.
Ah oui, 2 mois sans obtenir de réponse malgré sa relance. Et ça arrive souvent, ça.
C'est difficile à quantifier, mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que des demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu de contact depuis longtemps avec leur conseiller, ça oui, ça arrive. C'est ce qu'a constaté le député Les Républicains des Vosges, Stéphane Viry. Il est l'auteur d'un rapport sur Pôle emploi qui a été publié en début d'année. Et il est formel, il peut y avoir de longues périodes sans aucun contact.
J'ai notamment constaté effectivement dans mes investigations que certains demandeurs d'emploi n'étaient pas contactés par leur conseiller d'accès à l'emploi pendant plusieurs mois successifs, ce qui est une aberration absolue. On ne peut pas laisser dans la nature et peut-être dans le doute un demandeur d'emploi. Il faut que son conseiller puisse être en contact très régulier avec lui, il faut qu'il puisse le stimuler. S'il ne le fait pas, le conseiller de Pôle emploi, c'est parce qu'il ne le peut pas.
Oui, il ne le peut pas, et ça aussi les agents de Pôle emploi vous le confirment ?
Absolument, certains reconnaissent qu'ils n'arrivent plus à tout faire, non seulement parce qu'ils ont trop de monde à suivre, mais aussi parce que la dématérialisation des services a encore compliqué leur travail.
C'est-à-dire ?
Bien, depuis 2015, chaque demandeur d'emploi a la possibilité de contacter son conseiller directement par mail. Ça évite que les gens ne se déplacent en agence et c'est censé faciliter les échanges.
Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, non ?
Sur le papier, oui. Sauf que du coup, le nombre de mails a explosé. On a compté plus de 27 millions d'échanges en 2017, soit 43% de plus sur un an. Et l'une de mes sources m'a raconté que dans sa région, en seulement 2 mois, ce sont pas loin de 400 000 mails qui ont été reçus par les conseillers. Et Dominique, qui est agent Pôle emploi, le confirme, la gestion des mails s'est devenue très compliquée.
On essaye toujours de se garder un temps, ou en tout cas, dès qu'on a un temps, d'aller jeter un coup d'œil sur notre boîte mail, puisqu'on est soumis à une obligation, hein. On est soumis à l'offre de service, on doit répondre à un courriel en 72 heures. Mais oui, c'est anxiogène. Pour peu qu'on soit sur une autre activité, il faut trouver un temps pour répondre à l'offre de service, de toute façon. Mais effectivement, on a une charge de travail qui est phénoménale et je m'attendais vraiment pas à ça.
Ouais, donc cet agent estime qu'il a trop de dossiers. Mais en même temps, Cécile, dans ses portefeuilles très fournis, il y a certes des chômeurs sans emploi, mais il y a aussi des personnes qui sont en formation ou à temps partiel, qui travaillent un peu, qui ont peut-être besoin d'être moins suivis que les autres.
Alors on peut le voir comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pôle emploi les met hors portefeuille et l'assume. Sauf que tous les inscrits à Pôle emploi, y compris qui ont une activité ou qui sont en formation, ont droit au conseil en évolution professionnelle. C'est ce que dit la loi de 2014. Et quand bien même, Jacques, on retiendrait votre argument, eh bien, il faut savoir que même pour des personnes sans aucun travail, on jouerait aussi sur les chiffres.
Ah bon ? Comment ça ?
Eh bien, selon le manager, donc le patron d'une agence de Pôle emploi, que nous ne citerons pas, il existerait des dossiers fantômes, de vrais chômeurs, mais qui n'apparaissent dans aucun portefeuille officiel des agents de Pôle emploi. Écoutez-le donc, ce manager, nous avons fait lire ses propos.
Un certain nombre de demandeurs d'emploi ne sont pas immédiatement affectés à un portefeuille, parce qu'ils viennent de s'inscrire ou qu'ils se sont réinscrits après une courte période de travail. Ces gens-là se retrouvent dans une sorte de sas d'attente. En moyenne, j'ai 300 personnes en attente d'affectation dans mon agence. Mais parfois, il y a des pics à cause du départ d'un agent et dans l'attente de l'embauche d'un CDD. En ce moment, j'ai presque 1000 personnes en attente. Des personnes qui n'apparaissent donc nulle part.
Ah oui, des chômeurs dont personne ne s'occupe, mais si on ne les recense pas dans les dossiers gérés par des agents de Pôle emploi, est-ce que ça veut dire, Cécile, qu'on les enlève aussi des chiffres du chômage ? Vous savez, ces chiffres qu'on communique tous les mois ?
Alors non, pas du tout. Elles sont bien enregistrées comme inscrites au chômage. Ouais. Mais elles n'ont pas de conseiller, donc elles ne savent pas à qui s'adresser en particulier. Et ça fait baisser mécaniquement le chiffre officiel que les agents déclarent en portefeuille.
Mais pourquoi on ferait ça, Cécile ? Quel intérêt il peut y avoir à minimiser ainsi ces chiffres ?
Eh bien là encore, selon notre manager d'une agence de Pôle emploi, ce serait la hiérarchie qui lui demanderait.
La direction territoriale nous demande de toiletter les portefeuilles avant leur publication pour que les chiffres affichés soient plus acceptables. Je sais que dans certaines agences, on fait par exemple baisser la moyenne en affectant des chômeurs à un conseiller qui n'est pas censé gérer des demandeurs d'emploi. Autre combine, quand un agent est en arrêt maladie, son portefeuille est réparti entre ses collègues. Mais au moment de faire remonter les chiffres, on fait comme si l'absent était de retour. Là aussi, ça fait baisser la moyenne du nombre de chômeurs par conseiller. Le but, c'est de masquer la réalité. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire du suivi.
Oui, on rappelle que c'est un responsable d'agence qui dit ça. Et alors, comment est-ce qu'on justifie ça à Pôle emploi ?
Eh bien, là-dessus, nous avons interrogé Mickaël Oyer, le directeur général adjoint en charge du réseau. Alors lui, il dément avoir donné quelques consignes que ce soit pour minimiser l'importance des portefeuilles. Mais il considère que le nombre de demandeurs d'emploi par agent n'est pas ce qui est le plus important.
C'est un indicateur, effectivement, qui a sa pertinence, mais ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Ce qui est important, c'est de regarder également la qualité de service rendu. Et le plus important, le nombre de retours à l'emploi. Donc c'est là-dessus qu'on doit être jugé, la question de la taille de portefeuille. Ce n'est pas la seule question.
Bien, dont acte, et c'est vrai d'ailleurs que les chiffres du chômage sont à la baisse. Maintenant, cette profusion de dossiers à gérer, elle a quand même des conséquences. Et s'il est la première de ces conséquences, eh bien elle se ressent dès l'inscription.
Oui, c'est le premier contact qui a lieu entre un demandeur d'emploi et son conseiller. C'est le premier entretien, c'est là qu'ils font le point sur la perte de l'emploi, le profil du demandeur, ses compétences, son projet, le métier qu'il recherche évidemment, et puis les moyens d'y parvenir. C'est donc effectivement là que tout se joue, explique encore Dominique, notre agent de Pôle emploi.
Ce sont des entretiens très cadrés qui doivent durer 40 minutes et il est évidemment très facile de dépasser ce temps parce qu'on a quand même devant nous des gens qui ont une histoire personnelle, qui ont été licenciés pour différents motifs qui ont besoin déjà beaucoup de déverser à ce sujet-là avant de penser à l'orientation qu'on va leur proposer. Donc c'est un peu rock'n'roll, ouais.
Rock'n'roll donc compliqué. Or, comme on le disait, c'est là que se décide la suite pour le demandeur d'emploi.
Oui, parce que ce n'est pas juste une inscription, c'est aussi une orientation. C'est à l'issue de ce premier entretien que le conseiller va poser un diagnostic sur le demandeur d'emploi et déterminer donc de quel genre de suivi il a besoin.
Et quel genre de suivi ça peut être ?
Eh bien, en gros, il y a deux catégories d'accompagnement. Pour les chômeurs les plus en difficulté, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé. Dans ce cas-là, le portefeuille du conseiller comporte peu de personnes pour qu'ils puissent mieux s'en occuper. Et à l'inverse, les personnes qui sont jugées plus autonomes, on les met dans des portefeuilles plus étoffés, des portefeuilles qu'on appelle suivis, parce qu'on considère qu'il suffit de les suivre d'un petit peu plus loin.
Ce qui paraît assez logique, non ?
Ah oui, sauf que le problème, c'est qu'on mettrait trop de demandeurs d'emploi dans les catégories dites suivis, pour faire baisser les chiffres des portefeuilles qu'on dit renforcés.
Mais là encore, quel intérêt de faire ça ?
Bien, l'intérêt, c'est que ces portefeuilles renforcés sont regardés de très près, car derrière, il y a une volonté, et y compris politique, de montrer que Pôle emploi met le paquet pour ceux qui en ont vraiment besoin. C'est un peu comme quand on crée des classes avec moins d'élèves pour les élèves en difficulté. Si vous avez trop d'élèves, vous n'êtes pas dans les clous.
Bon, mais c'est établi, ça, Cécile. On oriente vraiment des chômeurs vers des catégories qui ne sont pas les bonnes ?
En tout cas, plusieurs sources à Pôle emploi m'ont affirmé que la catégorie des gens autonomes, donc suivis, comme on dit, était devenue une sorte de poubelle dans laquelle on met effectivement beaucoup trop de monde juste pour faire baisser la catégorie dite renforcée. Et ça, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'a aussi constaté dans son dernier rapport, dont nous avons fait lire un extrait.
La taille moyenne des portefeuilles est globalement homogène, mais elle est beaucoup plus variable pour les portefeuilles suivis. Cela suggère que cette modalité constitue la variable d'ajustement. C'est le signe qu'en cas de saturation des portefeuilles, les demandeurs d'emploi sont vraisemblablement orientés vers l'accompagnement qui l'est moins.
Ah oui, donc selon l'IGAS, on orienterait des chômeurs dans une mauvaise voie juste pour pouvoir montrer qu'on prend bien soin des gens en difficulté qui sont moins nombreux. Bon, et là encore, comment on justifie ça à Pôle emploi ?
À Pôle emploi, on ne dément pas, mais on explique que l'objectif aujourd'hui, c'est au contraire d'augmenter le nombre de personnes qui pourront bénéficier d'un accompagnement intensif.
Ouais, ce qui est un peu l'inverse de ce que vous nous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ce serait des bons chiffres, Cécile ? Pour pouvoir travailler correctement, un agent, il peut gérer jusqu'à combien de dossiers ?
Alors j'ai posé la question à Michel Abervé, ancien professeur d'économie sociale, et il a une idée assez précise sur la question.
La norme qui aujourd'hui est à peu près reconnue pour permettre à un conseiller à plein temps de suivre les personnes de façon correcte, elle est entre 60-70 personnes de suivi. Ça permet de faire du travail régulier, de qualité, de relancer les gens, et puis d'avoir une image dans la tête de chacune des personnes. Parce que celui qui en a 500-600... À un moment donné, il ne sait plus qui sont. Déjà, ce ne sont plus des personnes, ce sont des dossiers. Et on ne peut pas faire du suivi quand on n'a pas l'image des personnes en face de soi.
Et pourtant, c'est bien ce qui se passe, hein, Cécile. Alors, il faut aller un peu plus loin maintenant. Expliquez-nous comment est-ce qu'on en est arrivé là.
C'est l'aboutissement d'un paradoxe. D'un côté, vous avez un chômage de masse depuis de nombreuses années, même s'il y a un frémissement de baisse du nombre de chômeurs. Et de l'autre, vous avez une diminution des moyens alloués à Pôle emploi avec une volonté affichée de réduire le nombre d'agents. Stéphane Viry, le député LR des Vosges, qui a rédigé un rapport sur Pôle emploi, a d'ailleurs interpellé la ministre du Travail. C'était très récemment, fin mars, à l'Assemblée nationale. Il ne comprend pas comment Pôle emploi peut assurer ses missions dans ces conditions.
Depuis deux ans, la tendance est à réduire les effectifs de Pôle emploi qui sont déjà sous-dimensionnés. Et au-delà de cette réduction d'effectifs, 800 équivalents temps plein en 2019, on leur demande de faire plus, voire de faire mieux, avec moins. Et là, manifestement, le volume d'individus à traiter pour un conseiller peut dépasser l'entendement et place l'agent de Pôle emploi en une quasi-incapacité de performance, ce qui est, à mon avis, très contraignant, très déstabilisant pour l'agent et ce qui est très pénalisant pour le demandeur d'emploi.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu qu'un agent de Pôle emploi peut gérer jusqu'à 1000 dossiers, même si officiellement il n'en a que 300, et que des chômeurs fantômes se retrouvent parfois sans conseiller attitré. Maintenant, on se demande, Cécile Hautefeuille, cette situation, elle a toujours existé ou c'est quelque chose de nouveau?
Alors, nouveau, pas sûr, mais c'est difficile de dater ce constat parce que Pôle emploi a été créé en 2009, mais pendant longtemps, on n'a pas eu accès à ces chiffres. En fait, il a fallu attendre 2013 avant de connaître les tailles moyennes de portefeuille par conseiller et par agence, c'est-à-dire au moins les chiffres officiels. Et cette transparence, on la doit à un journaliste du quotidien Le Monde. Jean-Baptiste Chastan était à l'époque en charge des pages emploi et social au service politique du journal. Et il nous raconte comment il a procédé. Vous allez voir, ça n'a pas été facile.
Ça a été très long et assez compliqué. J'ai d'abord demandé ça au service de presse de Pôle emploi, j'ai pas eu de réponse pendant plusieurs mois, alors même que les administrations doivent communiquer les données au n'importe quel citoyen qui les demande, pas simplement aux journalistes. Et donc du coup, bien sûr j'ai demandé à ma hiérarchie, est-ce qu'on peut faire un recours auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, qui s'appelle la CADA, qui est chargée justement de trancher l'accès aux données pour toutes les administrations en France, pour pouvoir plus ou moins forcer la main à Pôle emploi d'avoir accès à ces chiffres. Et donc on a déposé ce recours en juin 2013, et fin juillet 2013, donc on a reçu la réponse positive de la CADA. On a reçu un fichier Excel ici au journal, avec agence par agence, la taille des portefeuilles, c'est-à-dire combien de chômeurs chaque conseiller en moyenne suit dans chaque agence. Et notamment, on voit très bien qu'il y avait des inégalités criantes, parce qu'il me semble qu'on allait de 70 à plus de 300 chômeurs par conseiller en moyenne, selon les agences.
Ouais, selon les agences. Donc là, ce qu'on identifie, hein, ce sont surtout des inégalités territoriales. Mais puisqu'on y est, Cécile, ces inégalités-là, elles existent toujours?
Oui, toujours. On peut le voir sur le site institutionnel de Pôle emploi. Vous avez une carte de France et vous pouvez accéder agence par agence à la taille moyenne des portefeuilles. Et certaines disparités sont frappantes.
Par exemple?
Eh bien, par exemple, à Roubaix-les-Prés, dans le Nord, la moyenne dans cette agence, c'est 674 demandeurs d'emploi par portefeuille, alors que dans les Hauts-de-Seine, à Levallois-Perret, une ville plus prospère, pour un nombre quasi équivalent d'inscrits au chômage, les portefeuilles sont deux fois moins étoffés. Cette disparité, Michel Abervé la documente régulièrement sur un blog sur le site d'Alter Économique. Il a comparé toutes les tailles dans toutes les agences et il est formel, plus les territoires sont sinistrés, plus les agents croulent sous les dossiers.
On constate que les agences qui ont les plus gros portefeuilles sont pratiquement toutes dans des zones qui relèvent de la politique de la ville et qu'on est exactement à l'inverse de ce qui est préconisé, c'est-à-dire un renforcement du traitement là où le public est en difficulté. Au contraire, les agences qui ont les portefeuilles les plus importants ont pratiquement toutes des quartiers politiques de la ville dans leur périmètre.
Oui, ce qui semble effectivement assez étonnant, parce que ça contredit la version officielle qui veut que plus on a affaire à des personnes en difficulté, moins on a de chômeurs à gérer.
Effectivement, et ça illustre bien un constat qui finalement ne date pas d'hier, mais que personne n'a vraiment su corriger. Pour en juger, écoutez Hervé Chaperon. Alors, c'est pas n'importe qui, il a été directeur adjoint de Pôle emploi de 2009 à 2013. Or, d'après lui, le projet était voué à l'échec. échec dès le départ, parce que la fusion entre les ACEDIC et l'ANPE, qui a donné naissance à Pôle emploi, n'a pas été pensée correctement.
Tous les objectifs, 3 ans après, on va dire, ont été jugés complètement hors sol. Alors celui des portefeuilles, c'était construit à partir du concept qu'avec un guichet unique et un métier unique, il allait se dégager une telle synergie en termes d'organisation, en termes de capacité de travail, en termes de fluidité des flux de demandeurs d'emploi, que, évidemment, le temps allait se réduire entre le temps nécessaire pour retrouver du travail et le temps pour alimenter d'une façon administrative, avec toutes les informations, le dossier. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça.
Ouais, ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, en même temps, Cécile, la création de Pôle emploi, c'est en 2009, hein, soit juste après la crise de 2008. Est-ce que dans ce contexte, ça pouvait se passer autrement ?
Alors c'est vrai que la crise a eu des effets catastrophiques. Près d'1 million de personnes qui se sont retrouvées au chômage en l'espace de 4 ou 5 ans. Mais pour l'ex-directeur adjoint de Pôle emploi, Hervé Chaperon, la crise n'explique pas tout. Lui, il est persuadé qu'on aurait pu faire autrement.
Moi, quand je mets un bateau à l'eau, que j'ai conçu mon bateau, moi, je gré mon bateau et je l'équipe pour gros vent. Et ça, ça n'a pas été fait.
Donc c'est-à-dire que le bateau Pôle emploi n'a pas été conçu pour résister à la crise ?
Alors, c'est comme disent les enfants, c'est bien plus pire que ça. Parce que la fusion, on en parlait depuis 20 ans. Et quand on a décidé de fusionner, c'est comme si on n'en avait jamais parlé. Et il a fallu, en un an, mettre en œuvre les parlottes depuis 20 ans.
Et cette précipitation n'aura rien donc arrangé à l'affaire. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Cécile ? Est-ce que les choses vont bouger ou est-ce que ça va continuer comme ça ?
On l'a dit, la tendance est plutôt à la réduction de postes à Pôle emploi, qu'on justifie par une amorce de baisse du chômage et par la numérisation qui permettrait de faire plus vite et mieux un certain nombre de tâches. Mais il faut savoir que dans le même temps, Pôle emploi va accueillir des profils nouveaux. Le mois prochain, un décret important devrait être publié, puisqu'il va ouvrir des droits au chômage sous certaines conditions aux salariés qui démissionnent et aux travailleurs indépendants. Bref, entre 20 à 30 000 personnes supplémentaires pourraient s'inscrire à Pôle emploi. Et dans ce contexte des portefeuilles saturés, le député Stéphane Viry estime que c'est inquiétant.
C'est une crainte qui est la mienne et qui est d'ailleurs partagée par un grand nombre de connaisseurs du secteur. Dès lors qu'on va demander a fortiori à Pôle emploi de s'occuper des travailleurs indépendants qui auront accès au chômage et également aux démissionnaires qui auront accès au chômage, ça va donc gonfler le nombre de situations à prendre en compte avec un effectif qui se réduit. Donc l'équation, je le confirme, va pas permettre à Pôle emploi de travailler avec sérénité et je présume et je le crains avec efficacité.
Donc lui s'inquiète de l'arrivée de ces nouveaux entrants, sauf que dans le même temps, on va sans doute aussi assister à un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation chômage pour d'autres catégories de personnes. Les contours de la réforme seront précisés mardi, mais avec les nouvelles règles, au moins 200 000 personnes pourraient ne plus avoir accès à l'indemnisation chômage.
Ce qui veut dire donc que l'augmentation des portefeuilles n'est pas forcément acquise. Bien, merci Cécile Hautefeuille. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, on va voir que les sportifs ne sont pas les seuls à se doper. Les musiciens classiques ne seraient pas en reste. Tell me. Une voix feutrée, une musique éthérée, c'était Ministry, extrait du dernier album de Careno. La New-Yorkaise associée à Danger Mouse, alias Brian Burton. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et on va continuer de parler musique, mais pas tout à fait de la même, avec François Tomaso. Bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez avec Vincent Sorel Les Dopés de l'Orchestre. C'est une BD qui est publiée dans la Revue Dessinée et qui est consacrée au dopage dans la musique classique. Alors ça peut paraître surprenant, c'est vrai que quand on parle dopage, on pense d'abord au sport. Mais vous expliquez que les musiciens aussi sont très stressés et donc ils auraient recours à une forme de dopage en tout cas, et notamment lors des concours d'orchestre.
Tout à fait. Bah, et en fait, j'ai découvert un petit peu ça par hasard. Je cherchais des renseignements sur des produits dopants qui s'appellent les bêta-bloquants, que les gens connaissent bien maintenant. C'est utilisé pour l'hypertension et d'autres choses.
En travaillant sur le sport?
En travaillant sur le sport. Ouais. Mon idée, c'était de travailler sur les bêta-bloquants, parce qu'ils sont utilisés dans le sport, par exemple, les sports de précision, le tir à l'arc, ce genre de choses. Et en allant sur les forums où on parlait de bêta-bloquants, je me suis rendu compte que c'était absolument pas des sportifs qui parlaient de bêta-bloquants, mais c'était des musiciens. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Comment se fait-il que les musiciens s'échangent des infos sur les bêta-bloquants? Et c'est comme ça que j'ai découvert que en raison du stress considérable que vivent les musiciens de musique classique, notamment en phase de concours d'orchestre, ils avaient un recours assez généralisé aux bêta-bloquants, qui sont des antitrac, hein, le plus connu étant le propranolol, qui se décline sous un certain nombre de formes, mais qui visiblement semble assez répandu dans les orchestres.
Alors, faut expliquer comment ça se passe quand même un concours d'orchestre, parce que vous le racontez, c'est vrai que vous êtes derrière un paravent. Si au bout d'une minute on considère que vous ne faites pas l'affaire, il y a une clochette qui sonne, en fait, vous êtes traité un peu comme du bétail.
Voilà, vous voyez, alors, bon, là, on a le témoignage d'une altiste qui travaille dans un orchestre de province, qui m'a raconté tout ça, c'est assez affreux. Et elle explique en effet que quand on passe un concours d'orchestre, vous avez une minute pour jouer un morceau imposé, une minute pour jouer un morceau que vous avez choisi. Tout ça se fait derrière un paravent, donc vous voyez pas vos juges. En effet, une petite clochette sonne, et avant ça, bah, tous les candidats, qui sont tous très bons, sont réunis dans un genre de chambre d'appel, comme dans un stade d'athlétisme, et à se jauger, à entendre ce que font les autres, c'est un stress assez affreux, et une carrière, un emploi qui peut durer 1, 2, 3, 4 ou 10 ans,
se joue
sur 2 minutes de musique.
Alors comment être sûr en même temps que le dopage auquel vous faites allusion est répandu? Je veux dire, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est pas un cas particulier ou quelques personnes qui vous ont parlé d'eux, mais que ce propranolol dont
ça,
on parle est utilisé couramment?
Donc on a commencé à parler de ce problème au début des années 80, et il y a un syndicat très puissant des musiciens américains qui a mené une enquête et qui s'est rendu compte à l'époque que déjà un bon quart des musiciens classiques avouaient avoir recours à ce produit ou à d'autres, hein, ça pouvait être des fois des barbituriques, enfin des anxiolytiques, tout un tas de produits. Et une autre enquête a été faite au début des années 2000, et là on était passé un bon tiers, voire une moitié de musiciens qui reconnaissaient avoir recours à ces produits-là. Alors il y a des produits beaucoup plus classiques, hein, il y a l'alcool, certains musiciens m'ont dit bon, utiliser beaucoup par exemple le cannabis pour se déstresser, et donc ces statistiques qui sont tout à fait officielles et tout à fait sérieuses ont démontré la présence de ces produits dans l'orchestre.
Et les témoignages que vous avez recueillis vont dans le même sens?
Totalement, c'est-à-dire quand j'ai plusieurs témoignages, notamment un chanteur, tous avouent qu'il y a comme ça, le recours, alors bon ou mauvais d'ailleurs, hein, parce que certains hésitent à parler de dopage en disant nous, ce que nous faisons, c'est pas de la performance.
Oui, mais ça n'augmente pas les capacités. En revanche, ça maîtrise le stress.
C'est ça exactement. Et d'ailleurs, si vous jouez stressé, de toute façon, vous jouez mal, donc ça améliore quand même vos performances. Et puis, dans le cadre d'un concours, il y a quand même une concurrence. La concurrence peut y avoir une distorsion de concurrence liée au fait que un musicien prend des cachets, que l'autre n'en prend pas. Et d'ailleurs, il y a des bêtes à concours qui sont pas forcément douées d'une sensibilité ou d'un sens artistique très fort, mais par leur capacité à maîtriser leurs nerfs ou à utiliser ces produits, arrivent à passer des concours, finalement un peu au détriment de l'art, parce que la chimie altère un petit peu tout ça.
Ça concerne essentiellement ceux qui passent des concours, et j'allais dire ceux qui sont le plus en vue, comme les solistes par exemple, qui sont face au public, ou ça concerne l'ensemble de l'orchestre?
Alors il y a un peu de tout, donc les personnes que j'ai interrogées me disent qu'en général, ils sont assez peu stressés en groupe. Il y a le stress normal, le petit trac qu'on ressent tous, vous avant une émission, ou moi quand vous m'interrogez. Mais ça
c'est de l'adrénaline,
au contraire. C'est de l'adrénaline, ça passe très vite, c'est un bon stress. Et ils me racontaient donc, tous ces gens-là, qu'au bout de 5 à 10 minutes, ou même un peu plus vite, dès que c'est lancé, on est au contraire pris par la dynamique du groupe. et c'est plutôt stimulant. En revanche, quand vous êtes tout seul, que tout repose sur vous, soit que vous êtes un soliste, soit que vous êtes un chef d'orchestre, soit que vous êtes un chanteur d'opéra, là le stress est beaucoup plus fort parce que des tas de choses peuvent arriver. Quand vous chantez, ça fait travailler énormément le diaphragme et ça crée ce qu'on appelle un reflux œsophagien, donc ça fait remonter de l'acidité. Et donc leurs cordes vocales sont attaquées par des remontées acides et donc ils utilisent ce qu'on utilise dans ces cas-là, ce qu'ils appellent des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont, me disent les chanteurs à qui j'en ai parlé, des produits utilisés de manière extrêmement répandue chez les chanteurs.
Alors on le découvre parce que c'est un tabou en fait, mais voilà. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Vous parlez par exemple du ténor italien Enrico Caruso qui lui-même se shootait déjà à l'éther.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer sur les chanteurs d'opéra. Caruso était lié à la même, avait le même type de problème. Il est mort assez jeune d'ailleurs. Alors
48 ans.
Voilà, c'est ça. Ouais. Pas forcément des suites de la consommation d'éther, mais on peut penser que son métier, son art, a été en partie responsable de cela. Glenn Gould est quelqu'un qui a très vite refusé de faire des concerts parce qu'il ne supportait pas ça.
Donc cette pression.
Cette ouais. pression, voilà, qui est vraiment...
Pression qui serait de plus en plus importante parce que notamment les délais pour produire un opéra, par exemple, sont de plus en plus courts.
La musique classique subit le même type de fonctionnement finalement que nous tous, c'est-à-dire qu'il y a un flux tendu, une accélération du temps et des choses. En même temps, une concurrence de plus en plus accrue, ce qui fait que le stress est encore accru. À tout moment, si vous trébuchez, quelqu'un d'autre peut vous remplacer. Et chez les chanteurs notamment, par exemple, les fractures des cordes vocales sont aussi fréquentes que les blessures du genou chez les skieurs ou les footballeurs, sachant également que l'argent compte, c'est-à-dire que si vous êtes un soliste important ou un chef d'orchestre, il y a toute une économie qui dépend de vous, donc ça accumule encore cette pression énorme qui pèse sur eux.
Alors il y a deux choses qu'il faut quand même qu'on précise, c'est que un, ce sont des produits qui sont interdits par l'Agence mondiale antidopage,
oui.
Et que deux, on l'évoquait, ça a des conséquences.
Bon, les bêta-bloquants, la personne qui a lancé un peu l'alerte là-dessus c'est une américaine, une noboïste qui s'appelle Blair Tyndall. Elle trouve qu'on en fait trop, que finalement ce sont des médicaments assez banals et que finalement pourquoi les interdire? Le problème étant quand même que comme tous les médicaments, ce sont des médicaments à manier avec prudence, tout ce qui a trait au cœur et à l'attention.
En tout cas avec un encadrement qui n'existe pas.
Un encadrement médical, voilà. La différence avec les sportifs, et beaucoup des musiciens m'ont dit ça, c'est que eux, c'est un petit peu la démerde, passez-moi l'expression. Ils se refilent des plans de docteurs qui sont complaisants, qui vont leur donner des cachets, mais ils sont pas entourés comme un sportif peut l'être par un psychologue, un sophrologue, un médecin d'équipe ou un kinésithérapeute. Ils sont livrés à eux-mêmes. D'où parfois la tendance à un petit peu exagérer. Et Isabelle, dont je parlais au départ, donc l'altiste, me disait que elle a dans son étui d'instrument, elle a son propre anonol qu'elle prend ou ne prend pas. Elle me dit qu'elle a eu sa phase whisky, certains c'est le cannabis, et elle a une expression assez marrante, elle dit elle dit de ses collègues ou d'elle-même, on gobe ou on gobe pas, lui il gobe pas, donc c'est devenu une expression dans l'orchestre, tu gobes ou tu gobes pas, c'est un jargon, presque un jargon de dopé ou de drogué, ce qui est un peu triste.
Pourquoi c'est tabou dans le classique, dans le rock, Freddie Mercury, les Beatles, les Stones, on le sait, ils sont tous à un moment donné drogués, dopés, c'est connu dans le sport, même si c'est pas légal. En revanche, dans le classique, c'est un tabou.
C'est ça. Benoît Menut le dit bien, lui, parce que il se trouve qu'il a été pianiste aussi pour des chanteurs de variété, et donc il dit très bien que quand lui, il était en tournée avec des chanteurs, ça faisait partie de ce que vous trouvez dans les vestiaires, de temps en temps, quelques produits que la morale réprouve, mais qui sont finalement assez répandus dans les
loges.
Même
dans le milieu audiovisuel.
Oui, même dans le milieu audiovisuel. Mais dans la musique classique, non, c'est parce qu'il y a ce côté un petit peu guindé, BCBG, d'une pratique artistique d'une grande pureté. Ce que disent les musiciens, c'est de minimiser l'impact de ces produits, dire finalement, nous ne sommes pas, nous, des dopés, parce que nous ne sommes pas en compétition, et finalement, si ces produits ne font pas de mal à notre santé, et nous permettent de vous offrir un meilleur spectacle, bon, tout le monde est gagnant. Mmh. On peut discuter de ça. Voilà.
Bon. On laissera le sujet ouvert. Merci en tout cas d'avoir levé un coin de voile sur cet aspect méconnu effectivement de la musique. Alors merci donc François Tomaso. Je rappelle que votre BD, la BD Les Dopés de l'Orchestre, vient donc de paraître dans la revue Dessinée. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert, et à la technique, il y avait Grégory Wallon et Patrick Henry. Dans quelques instants, CO de mon amour, Denis Chessou va s'intéresser à la privatisation des barrages. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.